Bénissons
pour une occasion encore que tu nous donnes d'entendre ta parole à travers de la bouche d'un de tes serviteurs. Nous voulons, Seigneur, te demander de disposer nos cœurs, disposer nos oreilles, Seigneur, que nous puissions avoir des oreilles circoncis, afin, Seigneur, de recevoir ce que tu as en réserve pour nous. Que ton esprit le guide, le conduise. Et tu l'as déjà fait, Seigneur, dans la préparation de ce qu'il avait à nous proposer ce matin. Nous voulons maintenant, Seigneur, que tu guides sa bouche. Et Seigneur, que vraiment tu nous donnes d'être attentifs. Seigneur, que nos cœurs soient un réceptacle bienveillant à son égard. Seigneur, que tu nous donnes encore de recevoir et d'être reconnaissant pour ce que nous recevons, de ce que Seigneur, des hommes se dévouent pour étudier la parole et puis, Seigneur, être capable de l'enseigner, de la prêcher, de la proclamer. Que ton nom soit glorifié encore en cet instant. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen.
Bonjour à tous. Donc, je suis James Andrenza Karamev. Je suis la sixième génération de pasteurs, de fils de pasteurs. Et c'est avec joie que je peux maintenant donner un petit témoignage. J'ai demandé au pasteur que plus tard, Dieu voulant, peut-être avant les vacances, j'aurai plus de temps parce que 71 ans et 40 ans de ministère ne peuvent pas se faire en deux minutes. Aujourd'hui, je vais juste témoigner pourquoi on est arrivé ici Argenteuil. En août 82, je quitte la France pour faire des études à l'Institut biblique de Nogent et j'ai élu domicile chez mon frère à Champigny-sur-Marne. Et pour certains qui savent, Aldo Azzori et sa femme étaient membres aussi. Et c'est comme ça que je l'ai connu. On était tous les deux membres de l'église de Champigny. Et à la fin de, en juillet 80, la première année donc de mes études, le pasteur Robert Hoffman a demandé au pasteur Dédéan, Paul Dédéan, d'envoyer un étudiant pour le remplacer pendant les vacances scolaires. Et bien sûr, c'est moi qui étais. Chaque année, généralement, je choisis un verset qui me servira de ligne de conduite pour me diriger durant les 12 mois. Mais cette année, exceptionnellement, trois versets de l'Ancien Testament m'ont convaincu. Exode, Psaume et Proverbe. Donc, c'est, vous allez voir là, c'est Exode chapitre 23, versets 20 à 23. Voilà le texte. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te projeter en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. Ensuite, il y a le psaume 123, versets 1 à 4. Cantique des degrés. Je lève les yeux, mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasié des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Et le troisième texte est Proverbe chapitre 24, verset 27. Et là, il y a quatre versions, mais la Bible, de la nouvelle édition de la Bible, nous dit « Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison ». La traduction œcuménique de la Bible, la Tob, dit « Assure ton travail au dehors, prépare-le dans tes champs, après tu pourras bâtir ta maison. » La Bible à la Colombe dit « Soigne ton ouvrage au dehors, organise-le dans ton champ, ensuite tu bâtiras ta maison. » Et la version hébraïque, le Zadokan, dit « Prépare-toi une occupation au dehors, déploie ton activité dans ton champ, puis tu édifieras ta maison. » Voilà les quatre versions. Et donc, ça sera ce proverbe que je vais vous partager aujourd'hui. Pourquoi donc ? Après le départ définitif du pasteur Bill Hansen de l'église évangélique baptiste de Maison Laffitte, suite au décès de son épouse Ellie Hansen, il nous a semblé opportun pour ma femme et moi de visiter quelques églises évangéliques avant de s'y rattacher à celles que le Seigneur nous a mis à cœur. C'est un enseignement qui m'a été inculqué dès mon jeune âge en tant que disciple de Jésus-Christ. Éviter de papillonner ici et là. Et c'est après avoir visité des assemblées à une demi-heure de notre lieu d'habitation, donc à Sartrouville, on pense éviter de faire partie de ces évangéliques qui aiment faire le tour du périphérique, de l'ouest vers l'est, de l'est vers l'ouest, etc., pour se rendre à une de culte, quitte à faire 45 minutes, voire une heure de trajet, nous avons décidé de rester ici. Et pourquoi donc Proverbe 24, 27 ? Nous sommes en fait dans une nouvelle situation de bâtir une maison, dans tous les sens du terme, physiquement, matériellement et spirituellement. Regardons dans le verset 27 de ce texte que nous lisons ensemble. Il est dit « Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. » Et quand j'ai consulté le texte massorétique, donc le texte hébreu, après le verset 2, « Mets ton champ en état », il y a une note en marche, il y a un ajout. Et cet ajout, c'est « Prends ta femme ». Et dans la version de la Septante, la même chose, après ce verset, ce deuxième partie, « Mets ton champ en état », il y a un ajout aussi qui dit « Et marche derrière moi ». Donc, en fait, si on lit avec ces notes, on peut dire « Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, prends ta femme et marche derrière moi, puis tu bâtiras ta maison. » Voilà donc le message que veut nous donner l'Éternel au travers de ce proverbe. Le verset 27, « Soigne, assure, prépare. » Donc c'est la traduction du mot hébreu Aken, littéralement préparé. Dans la version grecque de la Septante, c'est le mot etomaido, c'est-à-dire qui est préparé aussi. Et que pourront dire de ce premier passage? Il faudrait donc, selon ce texte, de soigner, d'assurer, de préparer ses affaires à l'extérieur. Donc voilà ce que j'ai compris de ce passage. Soigner mes affaires au dehors, c'est de soigner, d'assurer, de préparer son témoignage à l'extérieur. Comment êtes-vous vu auprès de vos collègues, de votre voisinage, de votre famille? Quand je donnerai mon témoignage plus tard, je préciserai que c'est un cycle de 14 ans, en fait. Et quand on est rentré à Madagascar, j'étais un élève brillant à Djibouti, et quand je suis rentré à Madagascar, c'est là qu'a commencé, avec les amis, la dégringolade. En jouant aux cartes, on fumait, et on a, pour ceux qui fument savent, on a l'habitude de dire second, troisième, quatrième, pour être tout de suite, avoir la cigarette après coup. Mais je ne savais pas, parce que ils étaient deux frères et on était deux amis à jouer à la belote. Et quand celui qui a démarré, moi je ne savais pas que ce n'était pas une cigarette, hein, c'était en fait un gros joint, quand il a passé à son frère, je dis, hé, c'est moi le deuxième, dis t'inquiète pas, t'en auras assez. Et c'est là que malgré tout, et malgré moi, j'ai commencé à fumer du cannabis. Et j'étais profondément ancré là-dedans, et il m'a fallu des années pour en être délivré. Et seule la grâce de Dieu m'a délivré de cet esclavage. Donc, soigner ses affaires au dehors, c'est de soigner, d'assurer, de préparer son témoignage à l'extérieur et comment être vu. Retenons que, quel que soit notre témoignage, les personnes nous jugeront toujours, premièrement, sur nos défauts. Vous avez sûrement vécu ça, hein? On ne remarque jamais vos qualités. On remarque d'abord vos défauts et non nos qualités. L'homme est ainsi depuis la chute. Il ne cherche, il ne regarde que la paille de son prochain. Dans toutes les églises que j'ai fréquentées, le premier regard des personnes sur vous, c'est votre tenue, votre coiffure et autres accessoires de bas en haut. Et dans les églises de type réformé, même chose, mais en plus de ce que vous mettez dans le panier offrande. On était surpris, une fois, on était dans une église réformée, et le diacre vient, et rangée, il nous fait parcourir, et on devait passer devant, mettre de l'argent. Aussi, au vu de tout le monde. Dans certaines églises même, on a décidé de ne plus nommer les offrandes des personnes qui donnent en dessous de 5000 francs malgaches à l'époque. Parce que, bon, il y en a qui donnent 20, 30, 50, et il y a trop, c'est une trop grande liste. Donc on a dit, bon, au-dessous de 5000, on ne divulgue plus votre nom. Alors c'est la course pour certains de donner plus. Mais dans nos églises bibliques baptistes de Madagascar, Dieu n'est à l'entrée et chaque personne dépose leurs dons et leurs offrandes incognito. Mais revenons à notre texte. Pour moi personnellement, soigner, assurer, préparer ses affaires au dehors dans ce contexte biblique, c'est tout d'abord d'examiner mon témoignage aux yeux de Dieu et non aux yeux de l'homme. C'est à lui seul que j'ai des comptes à rendre. Le psaume 123 que nous avons lu résume cette attitude. Je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Pour résumer, je dois donc avoir mes yeux fixés sur mon Dieu et maître, pour être sûr d'être dans sa volonté. Et je fais référence à la prédication et les études qui ont été faites ces derniers dimanches. On a tendance à chercher à faire notre volonté. Mais non, nous devons chercher la volonté de Dieu d'abord. Quand ma première femme est décédée en 2001, j'ai fait le vœu de rester veuf jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Christ. Et j'ai porté toujours l'alliance. Mais je me suis rendu compte que c'était ma volonté. Et depuis, j'ai fréquemment chuté. Et je prie, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur. Moi qui te suis fidèle, qui cherche à être fidèle, pourquoi ? Jusqu'à présent, je n'ai pas eu ce souci. Et pourquoi maintenant cela ? Et un jour, un frère en Christ m'a dit, Dieu te veut peut-être marié. J'ai enlevé l'alliance. Et depuis, c'était un miracle. Donc elle était décédée en 2001. On est parti l'enterrer à Madagascar. Et en 2003, les enfants disaient, papa, on voudrait aller à Madagascar, c'est si joli, parce qu'on n'a jamais été à Madagascar. Et quand on était là-bas, c'est là que j'ai rencontré Ingo, ma seconde épouse, et que j'ai épousé en 2004. Et on a eu donc James Junior comme notre quatrième garçon. Donc j'ai trois garçons de ma première femme et James Junior, notre quatrième. Pour résumer, je dois donc avoir mes yeux fixés sur mon Dieu et mettre pour être sûr d'être dans sa volonté. C'est la seule façon de soigner, d'assurer, de préparer ses affaires au dehors. Et après avoir soigné, assuré, préparé ses affaires à l'extérieur, Salomon nous demande de mettre notre champ en état, de déployer, d'organiser, de préparer notre activité dans notre champ. Tout d'abord, c'est quoi notre champ? L'apôtre Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 9, nous dit « Car nous sommes ouvriers de Dieu ». Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et d'autres versions disent, nous sommes co-ouvriers de Dieu. Vous êtes le labourage de Dieu. Ça, c'est Godet qui donne cette définition. Et dans la Bible annotée, il est dit, nous sommes coopérateurs de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes donc non seulement co-ouvrier, mais aussi le labourage de Dieu. Ce terme comprend avec l'idée du champ, celle de la culture. C'est pourquoi nous traduisons le labourage de Dieu. Je suis labouré, je suis le labourage de Dieu. La deuxième partie nous dit, mets ton champ en état. Donc, après avoir soigner, assurer, préparer mes affaires au dehors, il m'est demandé de mettre, de préparer, d'organiser, de déployer mon champ, mes activités en état. Une fois que mon témoignage à l'extérieur a été bien traité, je suis amené à voir maintenant comment je gère mon intérieur. Suis-je un bon mari? Un bon père de famille? Est-ce que je néglige rien de ma maisonnée? Voilà toutes les questions que un père doit se poser. Et ensuite, tu bâtiras ta maison. C'est donc après avoir soigné mes affaires au dehors, mis mon champ en état, que je pourrai en faire bâtir ma maison. Mais il faudrait au préalable, selon le texte massorétique et la Septante, prendre ma femme et marcher derrière l'Éternel. Trop souvent, on veut marcher tout seul et dire, bon, c'est moi le maître. On oublie qu'on a une femme, des enfants et surtout qu'on a un Seigneur. Bâtir une maison n'est pas une mince affaire. C'est tout d'abord avoir un bon témoignage à l'extérieur, s'assurer que tout fonctionne à merveille à l'intérieur. Et le plus important, c'est toujours se souvenir que le père de famille n'est pas seul à mener la barque. Rappelez-le. Je dis, le père de famille n'est pas seul à mener la barque. Il devra inclure sa femme et surtout, surtout, marcher derrière l'Éternel. En résumé de ces trois versets, je soigne, j'assure, je déploie au dehors mes affaires. Après cela, je mets, je prépare, j'organise, je déploie mon champ. Ensuite, je prends ma femme, je marche derrière l'Éternel et je bâtis ma maison. Que Dieu nous aide à nous rappeler constamment que l'Éternel envoie toujours un ange devant nous pour nous protéger en chemin et que notre objectif est de fixer nos regards sur la main de notre maître afin de bâtir sa maison. À Dieu seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen.
Amen.
Prions. En effet, Seigneur, c'est une grâce et une bénédiction que nous pouvons toujours implorer chaque jour afin que ta paix, ta joie demeure en nous, dans notre foyer. Aide-nous à nous souvenir que tu es notre Créateur, que tu es notre Seigneur, Sauveur, et qu'en toi et en toi seul, nous pouvons bâtir notre maison, et construire ce que tu demandes de construire ici et là. Louange, honneur et gloire à ton nom. Amen.
Amen.
Merci bien.